journal, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des bijoux de verre, de béton et d'acier, les aéroports de Paris. 10 milliards d'euros, ils pourraient rapporter tout cela à l'État, mais les sénateurs se rebiffent. Pas question de privatiser l'une des portes d'entrée en France, et non, ils l'ont dit cette nuit. Ne publiez pas les bans, le mariage Alstom-Siemens n'aura pas lieu. Bruxelles s'y oppose aujourd'hui. Un cadeau fait à la Chine, dénonce Bruno Le Maire. L'Europe à 4 mois des élections, on en parle avec votre invité Nicolas.
Oui, l'eurodéputé Arnaud Danjean, il est 3e sur la liste Les Républicains aux élections européennes. Il prendra donc la parole d'ici une vingtaine de minutes. Dialoguez avec lui, appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000.
À la une également, une proposition de loi pour assouplir le non-cumul des mandats. Un agriculteur français contre Monsanto au tribunal. Des révélations France Inter sur le cerveau du génocide rwandais. Un défi impossible en 2019, passer 3 jours sans téléphone portable. Et des petits carrés revenus des années 60, rétrospective Vasarely au centre Pompidou.
France Inter.
Atterrirons-nous un jour sur l'aéroport Roissy-Vinci? Si c'est Vinci qui rachète ADP, le gouvernement veut vendre, mais les sénateurs ont dit non hier soir. Pas question de céder l'aéroport de Paris à qui que ce soit. La droite et la gauche sur la même ligne, qui ne veulent pas rejouer la privatisation des autoroutes, ni celle de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Question de souveraineté, Maxime Debs.
Peut-on seulement confier l'une des principales portes d'entrée du pays à un acteur privé qui demain pourrait très bien être étranger? Inconcevable pour Philippe Dominati, sénateur d'hiver droite de Paris.
Il y a un problème de souveraineté, puisque par exemple dans le pays le plus libéral au monde, les États-Unis, tous les aéroports sont publics. On braderait vraiment les bijoux de famille.
Dans l'opération, l'État pourrait certes récolter jusqu'à 10 milliards d'euros, mais à quel prix pour cet élu? Peut-être vaudrait-il mieux retenir la leçon des autoroutes et celle justement de l'aéroport de Blagnac. Pierre Laurent du groupe communiste au Sénat.
L'exemple de Toulouse devrait nous éclairer. On a privatisé cet aéroport dans n'importe quelles conditions et un groupe chinois aura fait un aller-retour qui va lui permettre d'empocher une grosse plus-value avec la revente de ses parts. Voilà ce que donne la privatisation inconséquente d'infrastructures de cette importance.
Et Pierre Laurent de conclure, on sait tout du scandale qui s'annonce si demain l'aéroport de Paris venait à être privatisé. Alors pourquoi ne tout simplement pas l'éviter?
Les sénateurs ont aussi rejeté la privatisation de la Française des Jeux hier soir. Et pour aller de Paris à Roissy, bientôt une nouvelle ligne de train, le Charles de Gaulle Express, elle verra bien le jour pour les Jeux Olympiques de 2024. Malgré l'inquiétude des élus franciliens sur les perturbations qu'occasionneront les travaux sur les lignes de banlieue, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, l'a confirmé hier soir.
Qui est la femme soupçonnée d'avoir mis le feu à un immeuble du 16e arrondissement la nuit dernière?
D'elle, on sait qu'elle sortait d'un hôpital psychiatrique, qu'elle avait déjà eu affaire à la police, notamment dans une affaire d'incendie, et puis juste avant le drame, qu'elle est depuis hier après-midi à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris. Sa garde à vue a été suspendue. 10 personnes sont mortes hier, rue Erlanger, il y a 32 blessés et des dizaines d'habitants traumatisés qui rassemblent leurs souvenirs fugaces de cette étrange voisine au micro de Benjamin Elie.
C'était bonjour, au revoir, si vous voulez, et ça s'arrêtait là, quoi.
De cette femme, de cette voisine, il ne savait presque rien.
Je la connais pas.
Arrivée récemment dans l'immeuble, elle avait séjourné à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris. Là encore, ils n'étaient pas au courant, les habitants.
Je pensais même pas que c'était une femme qui avait fait... Elle a des antécédents psychiatriques, mais elle est jugée comme quoi elle est apte à vivre en communauté.
Comme Adam, 22 ans, 7e étage.
C'est dégueulasse, en plus elle a mis le feu, franchement... Je suis pas méchant, mais je lui souhaite tout le malheur au monde, franchement, plus sincèrement.
Et cette voisine, vous pourriez nous en dire plus sur qui elle est?
Disons que cette voisine, je l'ai croisée une ou deux fois.
Joséphine, du 2e étage, même palier que la femme interpellée.
Finalement, j'ai vu que c'était quelqu'un qui avait des perturbations psychiques. Parce que des gens qui veulent être tout de suite amis, puis qui veulent vous donner leur numéro de téléphone, qui ensuite vous disent « Ah oui, il faudra qu'on se voit, il faut que tu donnes des leçons à mon fils, etc. » comme si on se connaissait. Je l'ai vue juste une ou deux fois, mais bizarre, je veux dire.
Elle était menaçante ou pas?
Non, pas du tout. Paumée, voilà. plutôt que menaçante.
Cette voisine, qui intriguée, avait déjà fait l'objet de 2 plaintes en 2016, notamment dans une affaire de magasin incendié. Ces 2 plaintes ont été classées sans suite.
Des plaintes classées sans suite en raison de l'état mental de cette femme. Consultation tous azimuts aujourd'hui à l'Élysée et à Matignon. Les chefs de parti chez Emmanuel Macron, les partenaires sociaux chez Édouard Philippe. Au lendemain de la manifestation de la CGT et des Gilets jaunes, qui a réuni quelques dizaines de milliers de manifestants partout en France, dont 14 000 à Paris, selon le cabinet Occurrence. Les Gilets jaunes qui accusent les élus nationaux d'être coupés de la réalité, alors qu'ils ont plutôt de bons rapports avec leur maire. Voilà qui relance le débat sur le cumul des mandats interdits sous François Hollande. Ce qui laisse perplexe Édouard Philippe, le Premier ministre l'a redit la semaine dernière sur Inter. D'ailleurs, une vingtaine de députés En Marche sont en train de plancher sur une proposition de loi, Élodie Forêt, pour assouplir ce non-cumul.
Ce sont tous des ex-élus locaux persuadés d'être davantage à l'écoute des territoires grâce à ce mandat qu'ils ont dû quitter à regret.
Sur un certain nombre de sujets, nous avions tiré la sonnette d'alarme, je pense notamment au sujet des 80 km/h.
Benoît Simian, député LREM de Gironde.
Il est clair qu'avoir exercé ce mandat local est aujourd'hui une force.
Benoît Simian propose donc de permettre aux parlementaires d'être maires de communes de 10 000 habitants maximum. Pierre Morel-Alhuissier du groupe UDI Agir et Indépendant a lui déposé une proposition de loi du même genre, mais jusqu'à 25 000 habitants, avec les mêmes arguments.
Vous savez, une panne d'eau, si vous ne l'avez pas vécu en direct à 3h ou 4h du matin, où toute la population dit il n'y a plus d'eau, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Un maire qui s'adresse aujourd'hui à un député qui n'a jamais connu ce que c'était, le député, il va dire, je ne sais pas de quoi vous me parlez.
Les deux élus préconisent en revanche de ne pas cumuler les indemnités, pas assez pour convaincre Mathieu Orphelin, élu LREM du Maine-et-Loire, lui ne se sent pas déconnecté.
Moi, j'essaie de répondre à tous les coups de fil, à tous les mails. C'est comme ça qu'on peut faire ce trait d'union entre la vie des gens et ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas besoin d'être un élu local pour être connecté au terrain.
Le cumul des mandats, un débat moins partisan que générationnel, entre idéal des nouveaux parlementaires et nostalgie des anciens maires.
Donald Trump sur un air de compromis cette nuit à Washington. Discours sur l'état de l'Union face au Congrès. Après des semaines de shutdown, il appelle à construire de nouvelles coalitions et à lever les blocages. Mais Trump ne serait pas Trump sans quelques diatribes contre les sans-papiers criminels, contre la Chine qui vole les emplois et la richesse des Américains. Une annonce à retenir. La prochaine rencontre entre Trump et le Nord-Coréen Kim Jong-un aura lieu les 27 et 28 février au Vietnam. Au Venezuela, début de bras de fer à la frontière colombienne, des soldats se sont déployés sur un pont pour bloquer l'acheminement de l'aide humanitaire internationale organisée par Juan Guaido, mais dénoncé par Nicolas Maduro. Il y voit le prétexte d'une intervention militaire étrangère.
Il est 8h08. Faire toute la lumière sur le génocide du Rwanda.
25 ans après, c'est toujours un enjeu majeur, aussi bien pour la mémoire que pour la justice, pour les 800 000 Tutsis et Hutus modérés massacrés en 3 mois, à partir du 6 avril 1994. Date de l'attentat contre l'avion du président rwandais Habyarimana. Ce fut le coup d'envoi du génocide, pensé par un homme notamment, cet homme sur lequel vous nous révélez ce matin de nouveaux éléments avec Mediapart, Benoît Colomba.
Il s'appelle Théoneste Bagosora. Cet ancien directeur de cabinet du ministre rwandais de la Défense est considéré comme l'un des architectes du génocide contre les Tutsis. Selon une note du 22 septembre 1994 de la DGSE, les services secrets français, une note jamais révélée jusqu'ici, le colonel Bagosora est désigné, avec un autre extrémiste Hutu, comme le principal commanditaire de l'attentat contre l'avion du président rwandais Habyarimana, l'étincelle du génocide en préparation. Des juges français enquête également sur 80 tonnes d'armes vendues illégalement en juin 1994 en plein génocide. Livraison d'armes à la demande, là encore, du colonel Bagosora. Selon nos informations, les juges ont reconstitué les circuits financiers de cet achat d'armes qui passe notamment par BNP Paribas. La banque ne fait aucun commentaire. Condamné à 35 ans de prison par le tribunal pénal international, Théoneste Bagosora est actuellement incarcéré au Mali, mais il a refusé de parler aux juges français.
Enquête signée Benoît Colomba, a retrouvé en longueur sur franceinter.fr. Pas de commémoration officielle de ce génocide rwandais en France. Il y aura en revanche une journée nationale pour se souvenir du génocide arménien de 1915. Chaque année, le 24 avril, a annoncé Emmanuel Macron hier aux Arméniens de France. C'était une de ses promesses de campagne. Un agriculteur contre Monsanto. Ce sera la 4e fois que Paul François attaque la firme devant un tribunal. En 12 ans, ce céréalier dit avoir avoir été gravement intoxiqué par les herbicides Monsanto. Il a eu gain de cause en première instance et en appel, avant que la Cour de cassation n'invalide la décision pour une question de procédure. Alors revoilà Paul François devant la justice, devant la Cour d'appel de Lyon cet après-midi, Laurel Écarive.
Paul François réclame à Monsanto plus d'un million d'euros depuis qu'en vérifiant une cuve, il a inhalé des vapeurs de l'Asso, un herbicide désormais interdit. L'agriculteur a fait plusieurs comas et vit au rythme de ses crises, des maux de tête, des pertes de connaissances, des moments d'absence. Il a aussi développé une tumeur à la thyroïde et des septicémies à répétition. Face à la multinationale, Paul François a déjà gagné deux fois, en première instance et en appel. Alors pourquoi pas une troisième? Même si ce combat judiciaire l'épuise physiquement et financièrement, il se veut confiant.
Il n'y a pas d'égalité d'armes parce que Monsanto a des moyens colossaux. Ils peuvent se permettre de payer des consultants. Mais malgré tout, nos armes à nous, elles sont... C'est la vérité contre le mensonge. On n'a peut-être pas tout à fait les mêmes moyens. Moi, il n'y aura qu'un avocat, ils seront trois avocats. Mais je pense qu'à partir du moment aussi où notre cause est juste, que la justice ne tombera pas dans le panneau, c'est parce qu'il y a des moyens en face importants que la justice va trancher en fonction de l'épaisseur du porte-monnaie.
Depuis le début, Monsanto conteste toute responsabilité. Dans un communiqué, le groupe allemand Bayer se dit attaché, je cite, à une juste compréhension des situations et affirme que ces produits phytosanitaires ne présentent pas de risque quand ils sont utilisés dans les règles.
Alors depuis leur fusion, il y a un an, on parle de Monsanto-Bayer. Parlera-t-on un jour d'Alstom Siemens, géant franco-allemand du rail? C'est très mal parti. Bruxelles devrait bien faire capoter le mariage annoncé en s'y opposant aujourd'hui pour préserver la concurrence européenne. Confirmation de Bruno Le Maire il y a quelques minutes qui dénonce une décision qui va servir les intérêts de la Chine. Le ministre annonce de nouvelles discussions à ce sujet avec l'Allemagne. Ça n'est pas le procès de Denis Baupin, mais celui de France Inter, de Mediapart, poursuivi pour diffamation, comme des femmes qui l'ont accusé d'agression sexuelle ou de harcèlement. Six d'entre elles ont témoigné à la barre du tribunal correctionnel de Paris hier. Jean-Philippe Degnaud a suivi l'audience.
Isabelle Attard raconte les SMS qu'elle se souvient avoir reçus de Denis Baupin pendant plus d'un an et demi. Ça a commencé juste après son élection législative de 2012, le premier jour de la rentrée parlementaire. Je pensais pouvoir compter sur son expérience pour travailler sur la question du nucléaire. J'avais beaucoup d'estime pour lui. Mais les SMS tombent en cascade. Isabelle Attard lui répond toujours poliment. Elle évite de se rendre seule aux réunions de travail, toujours avec son collaborateur. Puis elle remarque que les attachés parlementaires du député s'enferment à clé dans leur bureau. Elle apprend que d'autres députés femmes ont reçu les mêmes SMS qu'elle. En juillet 2015, lors d'un déjeuner avec Edoui Plenel, Isabelle Attard se confie. « J'ai lâché une bouteille à la mer. » C'est ce premier SOS qui déclenchera la longue enquête que Mediapart et France Inter publieront 10 mois plus tard. Hier, Isabelle Attard a conclu sa déposition devant le tribunal. « Je ne pensais pas dire ça un jour. Merci Denis Baupin. Merci pour ce procès que nous n'avons pas choisi, mais qui nous permet à toutes de dire fort et publiquement ce qu'on a vécu et qui nous permet de passer à une autre étape de notre vie. »
Jean-Philippe Degnaud, serions-nous capables de nous passer, Nicolas, de notre téléphone portable pendant 3 jours?
Non.
C'est un défi lancé chaque année pour nous faire réfléchir à notre addiction, Sonia Gobry. Sauf qu'à cette question, la réponse honnête, hélas, vous venez de la faire en d'autres termes, c'est même pas en rêve.
Frédéric, un informaticien de 42 ans, marche sur le trottoir tout en gardant les yeux rivés sur son téléphone.
Ah, j'étais en train de jouer sur une appli mobile pour passer le temps.
Et depuis quand vous n'avez pas utilisé votre portable pendant 24 heures?
Je dirais que depuis que j'ai mon portable, je suis tout pointu.
Assise en terrasse, Rose et son amie Pénélope regardent grâce à un nouveau logiciel pendant combien de temps elle a joué sur son téléphone.
J'ai passé 5 heures dessus les 7 derniers jours, c'est quand même beaucoup. Ah non, 9h30 les 7 derniers jours, c'est énorme. Faut que je me calme, c'est pas possible.
Sans compter le temps consacré aux réseaux sociaux, Pénélope passe en moyenne 3 heures par jour sur son portable.
En fait, maintenant, c'est plus devenu un réflexe. Le soir, quand on s'ennuie ou quelque chose comme ça, automatiquement, on va sur notre téléphone.
Les lycéennes n'estiment pas être dépendantes à leur téléphone, contrairement à certains de leurs amis.
Quand on boit des verres et tout entre nous, ouais, à chaque fois, genre, on est un peu les seuls à forcer tout le monde à arrêter d'être sur leur téléphone. Ça les énerve un peu au début. Mais...
Montre connectée au poignet, écouteurs sans fil aux oreilles, Raphaël, un pharmacien de 32 ans, assume être complètement accro à son smartphone, qu'il considère comme un assistant au quotidien.
Ça me permet de me déplacer parce que je commande beaucoup de chauffeurs privés, de manger, Uber Eats, les mails, YouTube énormément. Les actualités aussi, sans mon téléphone, je me sens pas bien.
Aucun d'entre eux ne participera à ces journées sans téléphone portable.
Voilà la nomophobie, Nicolas, la peur excessive d'être séparé de son téléphone ou de ne pas pouvoir s'en servir. Enfin, nous connaissons tous ces tableaux géométriques et psychédéliques, ces illusions d'optique faites de petits carrés de couleurs. Vasarely, à l'honneur au Centre Pompidou, 50 ans après sa révolution pop, Isabelle Pasquier.
Vasarely a réussi à vasaréliser la planète. En 69, David Bowie chante Space Oddity et sa pochette d'album est signée Vasarely. Pas étonnant car dans ces années 60-70, le monde entier est pop, mais il est aussi hop, hop comme optical art, l'art optique inventé par Vasarely qui inonde le monde avec ses géométries psychédéliques. Sculpture dans les villes, peinture murale, design, déco, mode. Vasarely invente un langage artistique populaire. C'est ce qu'il confiait à un certain Michel Polnareff, venu l'interviewer dans son atelier.
Il faut que notre temps produise son propre style en peinture. Eh bien, aujourd'hui, on peut parler d'un style intégré, si vous voulez, dans la vie de tous les jours.
Dans l'exposition, la série des Vegas, expérience optique qui donne l'impression de voir en 3D, mais que cherche Vasarely derrière ses effets spéciaux. Arnaud Pierre, commissaire de l'expo.
Ces forces visuelles qui sont activées par le tableau renvoient en fait pour lui aux grandes forces de l'univers, hein, que ce soit le rayonnement cosmique ou l'énergie des particules élémentaires. Cette énergie visuelle que dégage le tableau, c'est l'équivalent finalement de ces grandes forces de l'univers.
Victime de son succès, Vasarely avait disparu des radars de l'art. Aujourd'hui, vous pouvez ressortir les posters de vos parents.
Elle-même avait un poster au-dessus de son lit, dans sa chambre, à la moquette orange. Isabelle Pasquier raconte sur franceinter.fr, c'est très sérieux, comment Vasarely a envahi ses années 70.
Merci Florence Paracuelos.